Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
À la rencontre des Juifs noirs. La diversité religieuse et l'effervescence religieuse sont l'une des caractéristiques les plus visibles et les plus audibles de l'Afrique d'aujourd'hui. On est frappé un peu partout par le nombre des temples, des églises, des mosquées, et les quartiers sont en train de résonner le matin, le soir, de cantiques religieux, de prédications enflammées, et les gens donnent l'impression d'être là constamment en train de prier. Alors ce qu'on dit là est vrai surtout des églises chrétiennes, qu'elle soit issue du christianisme missionnaire ou au contraire du christianisme indigène de protestation contre l'emprise coloniale, ou alors des églises évangéliques. Mais alors, comme toujours, il faut se méfier parce que le plus visible n'est peut-être pas le plus original. Et justement, ce qui n'est peut-être pas très visible, c'est justement la présence d'un judaïsme africain. On va élargir en disant un judaïsme noir. Et lorsqu'on parle de ce judaïsme noir, les gens sont très surpris, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora africaine ou, disons, dans les anciennes puissances coloniales, où il y a aujourd'hui une présence africaine très, très importante. Et quand ils réagissent, souvent, c'est un peu comme réagissait Montesquieu au début du XVIIIe siècle, dans les lettres persanes, il y a presque 300 ans, où... ce persan à Paris s'habille comme un persan, puisqu'il est venu avec son costume du pays, et il écrit à l'un de ses amis à Smyrne pour lui expliquer ce qui s'est passé. Il dit, bon, d'abord je portais le costume persan, ensuite il y avait tellement de gens autour de moi, il dit, bon, quand je circulais, tout le monde se mettait aux fenêtres, quand j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi, et donc finalement il change de costume, il s'habille comme tout le monde, et lorsque, dit-il, par hasard, quelqu'un l'appelle de son nom et dit « je suis persan », j'entendais aussitôt autour de moi un bourronnement. « Ah ah, monsieur est persan, c'est une chose bien extraordinaire, comment peut-on être persan ?» Alors la question, comment peut-on être juif ? Gershon Doua, vous êtes juif, africain, noir, français, enfin tout ceci ensemble. Vous êtes très actif dans le monde juif, non seulement en France mais aussi en Afrique, du Sahel jusqu'en Afrique du Sud. Vous êtes connu également dans d'autres parties du monde, aux États-Unis, et en Amérique du Nord, mais aussi au Brésil où vous avez vécu un peu, et vous venez de publier un autre de vos livres. Le livre s'appelle donc « Manifeste des Juifs noirs ». Alors, pourquoi ce manifeste d'abord d'une manière générale ? Le titre est très très fort, c'est presque un combat que vous êtes en train de mettre en valeur.
Oui, il a fallu effectivement... casser des préjugés qui faisaient du noir un instrument idéologique et théologique dans la Bible, compte tenu effectivement de la situation telle qu'elle a été sur le plan historique au judaïsme. Il y a toujours eu la présence de noirs depuis l'Égypte, depuis Moïse, et depuis jusqu'à la destruction du temple. Et donc l'idée, c'est effectivement le combat dont, comme vous le dites, c'était de sortir le noir de l'idéologie, si vous voulez, raciste, et qui a fait que depuis des années les juifs noirs étaient invisibles. La réalité était simplement c'est que nous-mêmes en tant que juifs noirs, nous devions prendre la chose en main et puis démontrer que la question de la peau noire est un simple instrument physiologique du taux de mélanine, que ça n'avait pas à voir avec un instrument ou un appareil idéologique qui servait à exclure notre peuple de l'ensemble du peuple juif Et quand on exclut quelqu'un de l'ensemble d'un peuple, c'est-à-dire on l'exclut de l'humanité. Donc l'objectif pour nous, c'était ça, c'est de démontrer effectivement que non, on peut être juif et noir, c'était compatible parce que ça a toujours été. Et on le verra, que ça soit dans les Talmuds, que ça soit dans la Torah elle-même, et que ça soit dans les quotidiens, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Yémen. Tout ça, ça fait partie effectivement de notre identité. Il n'y avait pas des raisons d'avoir honte de l'exprimer. C'est ce que nous, on a appelé effectivement la visibilité. Et maintenant, effectivement, on fait partie des institutions, que ça soit en France, on est membre du CRIF, en Israël, on travaille avec les institutions. Donc, on a pensé que pendant ces temps, il fallait effectivement démonter ces mécanismes de l'idéologie qui a été propagée à la fois par un certain nombre de juifs eux-mêmes, les chrétiens et puis les musulmans. Donc nous étions une minorité dans tous les sens du terme, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les musulmans et chez les chrétiens, la peau noire posait un vrai problème.
Alors dans votre livre, vous vous référez à un certain nombre de textes fondateurs, parce qu'il faut revenir aux origines tirées de l'Ancien Testament, et notamment de la question des rapports entre Moïse et ses frères, Aaron le frère et Myriam la sœur, parce que Moïse avait épousé une couchite, donc on va dire une noire. Écoutons d'abord un extrait de ce texte.
Myriam, ainsi qu'Aaron, parla contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme couchite. Et ils dirent, Yahvé ne parlerait donc qu'à Moïse ? N'a-t-il pas parlé à nous aussi ? Yahvé entendit. Or, Moïse était un homme très humble que la terre ait porté. Soudain, Yahvé dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, venez-vous-en tous les trois à la tente du rendez-vous. Ils allèrent tous les trois, et Yahvé descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Tous deux avancèrent. Yahvé dit, « Écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Je lui parle face à face. » Je lui parle face à face dans l'évidence, non en énigme. Et il voit la forme de Yahvé. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse ? La colère de Yahvé s'enflamma contre eux. Il partit et la nuée quitta la tente. Voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle. Elle était devenue lépreuse.
Qu'est-ce qu'on peut tirer, Gershon Douwa, de ce texte qui est quand même très très clair, c'est-à-dire d'une part il y a l'intermariage qui ne fait pas de problème, d'autre part il y a cette espèce de racisme primaire et l'intervention de Dieu qui punit les racistes qui reprochaient à leurs frères le fait d'avoir épousé une couchite.
Oui, tout à fait, ça c'est effectivement, c'est écrit noir et blanc dans la Bible, c'est pas un truc qu'on a inventé. La Torah n'a jamais accepter le racisme. Et l'exemple de Moïse, notre maître, avec sa sœur Myriam, est un exemple qui nous parle tout le temps. C'est-à-dire que, en deuxième lieu, c'est que la présence des Noirs dans le judaïsme ne date pas d'aujourd'hui. Que ce soit en Éthiopie, à l'époque déjà, dans les déserts du Sinaï, et en Éthiopie, au Yémen, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, à Madagascar, la présence de Noirs au sein du peuple juif n'a jamais été un problème. Simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est que la couleur de la peau noire a été remplacée par un courant idéologique raciste, en passant par Origène et puis le maître, les commentateurs du Coran au 7e siècle, Et ça s'est développé avec la Renaissance, ce qui a fait que bon, il y a eu effectivement l'écran, dira-t-on, et puis un recul. Mais quand on regarde dans la Torah, le problème ne s'est jamais posé parce que Dieu lui-même punit la sœur de Moïse, notre maître, pour avoir tenu des propos,
disons, racistes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, Gershon Dua, quand vous entendez un Kouchite exalté par Dieu lui-même, hein, parce qu'il a eu un acte de bravoure sur un de ses, des personnes issues de son peuple?
Mais c'est toute une série des textes comme ça qui sont dans la Torah, et que ce soit dans le psaume, parce qu'on parle des Shulamites, on parle des Vedmeler, on parle effectivement des Tiporins. Donc, dans le judaïsme et même dans la Torah, il n'a jamais été question d'exclusion ou du racisme. Parce que Vedmeler, dont on parle, un Kouchite, existait à l'époque même de nos grands maîtres. Et on voit très bien que, en ce moment, la question de la couleur des peaux ne s'est posée pas en termes épistémologiques comme ça se passe aujourd'hui dans la société. C'est un simple marqueur mélanique qui n'a rien à voir avec le fond de l'être humain. Donc ça, la Torah est tout à fait claire. Maintenant, je ne me fais pas d'illusions, les interprétations, vous savez, l'histoire des Cham, c'est une histoire qui, aujourd'hui, nous arrivons à démontrer effectivement que ça n'a aucun fondement biblique. C'est des interprétations qui ont été données par un certain nombre des maîtres, si on peut les appeler ainsi, mais avec une connotation raciste, ce qui a ajouté effectivement l'esclavage, et après il y a eu la colonisation, et les gens en ont fait tout un discours d'exclusion de tout un peuple, que ce soit au sein du peuple juif, que ce soit dans l'islam et le christianisme. La couleur de la peau noire était devenue un instrument idéologique.
Et c'est vrai que toutes les religions abrahamiques vont reprendre ces théories qui sont absurdes, parce que on entend bien que c'est la malédiction de Canaan et pas d'abord de son père, c'est la malédiction du fils. Mais ce Canaan n'a rien à voir avec, disons, les peuples d'Afrique aujourd'hui.
Mais justement, c'est les racistes qui ont conçu cette théorie ont utilisé tous les termes pour essayer de justifier, parce que les uns disent c'est parce que on parle des rames. Ram en hébreu, ça veut dire chaud, mais aucune raison pour démontrer que ben il y a la chaleur ne se trouve qu'en Afrique. Ils l'ont posé comme ça, mais quand vous allez dans les Nevada, il fait encore beaucoup plus chaud qu'en Afrique. Et vous allez en Arabie Saoudite, et il fait encore beaucoup plus chaud qu'en Afrique depuis les temps. Mais tout simplement, c'est que bon, ils ont joué sur la faiblesse peut-être de l'époque du continent africain pour essayer de justifier tout ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, il y a aucun fondement. Mais moi, j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs dans ces domaines. Il n'y en a pas un seul qui confirme que géographiquement, et d'ailleurs, de toute façon, comment qui connaît bien la géographie de cette époque pour dire que bon, c'est la chaleur fait que bon, ces gens qui sont noirs ont été maudits. Ça n'existe nulle part. Simplement, c'est que l'interprétation a fait que la tendance chez l'être humain, c'est ça, c'est de vouloir toujours exclure l'autre, les trouver coupables à côté de soi, et ils ont trouvé que c'était les noirs qu'il fallait accuser et créer. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, d'ailleurs, parmi ceux-là, trouvent que bon, les juifs noirs, c'est un mythe, c'est pas, ils n'existent pas. Donc, sur quoi ils se basent? Sur rien. Donc voilà un tout petit peu comment ils ont réussi à construire cette idéologie raciste. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous sommes entendus et notre message passe bien parce que nous les travaillons avec des preuves. Beaucoup de chercheurs qui soient en France, en Amérique, en Afrique et en Israël se réunissent pour démontrer que on ne peut pas dire une seconde que bon, la malédiction est tombée sur un continent et sur tout un peuple, ça n'a aucun sens.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de tout complexe et de toute crainte.
The resolutions we have made here are a symbol of our determination to become united and to remain united in an African community.
Mémoire d'un continent. Elikiam Bokolo.
Nous sommes avec Gershon Nua pour son livre Manifeste des Juifs Noirs. Gershon Nua, nous venons de parler justement des textes anciens. Voyons la géographie d'aujourd'hui. L'une des choses que vous avez révélées au monde un peu surpris, c'est que sur le continent africain lui-même, il y a des peuples, j'allais dire, autochtones qui se disent et qui se reconnaissent comme juifs et qui ont des pratiques liées au judaïsme. Alors, on les trouve presque dans toutes les régions du continent. Vous en avez au Nigeria, certes beaucoup connaissent le peuple Igbo qui a occupé les devants de la scène pendant la guerre du Biafra, mais il y en a aussi en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Alors parlez-nous un peu de ces gens-là. À quoi reconnaît-on qu'ils sont juifs? À ce qu'ils disent ou à leur manière d'être et de pratiquer leur religion?
Oui, il y a eu effectivement un silence des morts sur cette question. Comme on disait tout à l'heure que la présence des Noirs était dans la Bible, elle est toujours dans la Bible. Quand on parle de l'Égypte, beaucoup de gens pensent que l'Égypte n'est pas en Afrique, mais en réalité, oui, l'Égypte est en Afrique. Et quand on vient sur les Sinaï, c'est aux confins du continent africain. Donc, il est inimaginable que quelqu'un vive dans un endroit et qu'il ne laisse pas de traces. Donc, nous partons de cette hypothèse, d'abord biblique, et puis il y a des hypothèses aussi scientifiques. L'histoire des Juifs d'Afrique au sud du Sahara est tout simple. C'est un certain Feitlovich, qui est un Polonais, c'est-à-dire un Juif ashkénaze, en sachant effectivement que d'abord, au sein de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, il y a une présence juive noire millénaire. En parlant aujourd'hui de ce qu'on appelle les Gnawa. Les Gnawa, c'était des tribus juives qui ont été islamisées et christianisées. Et donc, ils sont éparpillés à travers toute la région Guinée, Mali, un tout petit peu au sud du Maroc. Et ça, c'est toute notre histoire, l'histoire juive qui a été un tout petit peu falsifiée. Donc, maintenant, quand Feitlovich part en Éthiopie, pour la première fois, effectivement, les gens étaient étonnés de voir que il y avait des Juifs blancs. Parce que eux, ils pensaient qu'ils étaient les seuls Juifs au monde, les Éthiopiens. Tout est parti un tout petit peu de là. C'est-à-dire que quand Feitlovich a mis en lumière la pratique des Juifs éthiopiens, et ils pouvaient pas être que des Éthiopiens. Il fallait aller plus loin. Donc, c'est ça notre travail, c'est de voir au-delà de l'Éthiopie, comme on dit, au-delà du fleuve Kouch, qu'est-ce qu'il y a? Et il s'est avéré avec des chercheurs que la pratique des Igbo était une pratique juive. La pratique des Lemba en Afrique du Sud, c'était aussi une pratique juive, jusqu'à Madagascar, au Congo. Et il fallait maintenant pour nous faire des recherches pour... c'est pas des gens qui se sont proclamés du jour au lendemain, non, c'est une pratique de la circoncision, du respect des Shabbat et toutes les lois, notamment les lois de pureté et l'abattage rituel. Ils ont ça parce que ça, c'est des lois bibliques. Et contrairement au Talmud qui n'est arrivé qu'au 1er siècle, donc qui a été effectivement la tradition orale qui a été mise par écrit.
Merci à vous, Gershon Nua, pour ces éclaircissements. Je rappelle le titre de votre livre, Manifeste des Juifs Noirs. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.